Alors, qui appelait Amandine Bégaud ce midi. Depuis 2000, l'OCDE réalise une enquête tous les 3 ans auprès des élèves de 15 ans du monde entier pour tenter de comparer leur niveau d'enseignement. C'est le programme international pour le suivi des élèves, le PISA. Les résultats de la dernière étude sont sortis ce matin et ce n'est pas brillant. Notre niveau continue de chuter en maths et en compréhension à l'écrit. Ils n'ont jamais été aussi bas. Comment l'expliquer? Que se passe-t-il dans nos écoles? Peut-on remonter la pente? Face à face dans les grands esprits se rencontrent. Camille de Foucault, ancienne professeure de français et membre du think tank Vers le haut, bonsoir.
Bonsoir.
Et Guillaume Mouzel, directeur général délégué d'Open Classrooms et co-auteur du rapport du Conseil d'analyse économique sur l'école, bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, il faut préciser que les élèves ne sont pas interrogés sur les programmes scolaires. On les teste sur la capacité à mobiliser leurs compétences dans les situations de la vie quotidienne. Ça veut dire qu'on regarde si ce qu'ils apprennent leur sert à quelque chose, c'est ça, Guillaume Mouzel?
Et c'est très important de pouvoir se comparer aux autres, parce que quand un enseignant donne un devoir, il a sa grille d'évaluation à lui. Quand on a quelque chose de standardisé, où on vérifie que, par exemple, on sait multiplier par 100 un nombre avec une virgule, on a une approche assez objective du niveau de maîtrise des principales compétences.
Ça veut dire que vous pensez que c'est un bon thermomètre, ce classement PISA?
Ouais. Il ne couvre pas tout, évidemment. Mais oui, c'est un thermomètre extrêmement utile. D'abord, aujourd'hui, parce qu'il révèle, justement, une dégradation du niveau qu'on pressentait malheureusement et qui est avérée dans les résultats qui tombent aujourd'hui.
Mais est-ce que nos élèves savent des choses que les autres ne savent pas et qu'on ne peut pas mesurer avec ce classement PISA, qu'on ne peut pas évaluer, Camille de Foucault?
Il y a quand même une chose qui a été évaluée par ce classement et qui est relativement positive par rapport à la moyenne de l'OCDE, c'est la croyance qu'ont les élèves dans leur propre capacité à progresser, et c'est quand même pas rien, c'est une forme de confiance en soi. On appelle ça l'état d'esprit de développement, et là-dessus, les élèves français sont à peu près à 80 quand la moyenne est à 60. Donc c'est un des rares scores dans tout le classement PISA dont on peut quand même se targuer. Voilà.
Se réjouir, ça fait une bonne chose. Effectivement, mais vous pensez que malgré tout, est-ce que c'est catastrophique en fait, les résultats qu'on vient de découvrir? Nos élèves baissent en maths, en sciences, en français. Qu'est-ce qui est le plus grave d'ailleurs, selon vous?
Ce qui est certain, c'est que ça titille un peu la fierté nationale. Bon, après, ça fait 25 ans qu'on mesure nos résultats et 25 ans qui sont finalement assez moyens. Mais ce qui est assez perturbant, je trouve, dans ces derniers résultats, c'est la chute, la dégradation de l'accompagnement humain des jeunes, des parents et des enseignants. On se rend compte que les parents sont de moins en moins nombreux à interroger leurs enfants sur la manière dont ils vivent l'école, et de moins en moins fréquemment.
Et ça, c'est très important pour les élèves.
Alors, il y a une corrélation qui est certaine, qui a été mesurée entre l'intérêt, l'implication des parents dans leur scolarité et les résultats des élèves. Donc, c'est très important et c'est, je pense, un levier qu'on peut activer.
Et ça, on sait pourquoi. Il y a ce désintérêt des parents. Je ne sais pas si on peut parler de désintérêt, d'ailleurs, mais une rupture, en tout cas, dans le suivi.
C'est pas expliqué dans PISA de manière limpide. En revanche, on a une sorte de perte d'espoir dans l'école aujourd'hui qui est dramatique pour toute la société et qui touche une communauté enseignante qui a choisi son métier, mais qui est à la fois épuisée et assez défiante. Tellement des réformes successives lui ont été assénées. Et pourquoi pas des parents qui sont désemparés parce que c'est difficile. Mais derrière, l'impact, il est pour toute la société. On sait le climat politique que la France traverse aujourd'hui. Parlant au nom d'un collectif d'économistes, les 3/4 de la hausse de la productivité viennent du progrès, de l'investissement dans le capital humain. Lorsque les élèves n'ont plus le niveau d'avant, on est juste moins efficace.
Alors, la tendance est à la baisse pour la France, mais pour l'ensemble des pays. Ça plaide pour une cause universelle. Alors, est-ce que ça y est, on tient la preuve que les écrans, que les réseaux sociaux font baisser le niveau des élèves?
Camille. Non, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. On a envie de trouver un coupable facile, et ce serait les réseaux sociaux, les écrans. Mais en fait, les élèves là dont on mesure les progrès par le classement PISA ont vu leur téléphone interdit en collège. Après, évidemment, ils étaient sur les réseaux sociaux chez eux. Mais les effets très négatifs auquel on a envie de croire, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus difficile à mesurer que ça.
Et le ministre de l'Éducation nationale, comme Édouard Geffray, lui qualifie les réseaux sociaux d'armes de destruction intellectuelle massive. Ce serait quoi le processus? Pourquoi les réseaux sociaux empêchent nos enfants d'apprendre?
Au moins, on a une corrélation. Le rapport PISA montre que l'évaluation, le niveau de compétences maîtrisées est supérieur quand on utilise les réseaux sociaux moins d'une heure par jour, et qu'il est nettement dégradé quand on est au-delà de 3 heures, et même au-delà de 5 heures, et au-delà de 6 heures, parce qu'il y a des enfants, des adolescents qui sont vraiment otages de ceci. Et donc, effectivement, on a, avec les réseaux sociaux, certainement un problème sociétal général qui a sa traduction scolaire et qui a beaucoup d'autres traductions dans la situation de santé mentale dans notre pays, probablement aussi dans la sédentarité et des problèmes sanitaires. Mais comme le disait Camille, ça serait trop facile s'il n'y avait qu'un coupable, et si d'ailleurs interdire à l'école l'usage des téléphones allait radicalement changer la donne. Non, il y a beaucoup d'autres facteurs à...
Et interdire les réseaux sociaux, parce que
c'est
ce qu'on n'a pas pu faire, ce qui était la volonté du gouvernement.
On verra bien ce que l'Union européenne prend comme type de mesure, et il y a des inquiétudes qui sont de plus en plus fondées par des arguments. La recherche est encore assez fragile, parce que la recherche a besoin de temps. Et que c'est et qu'elle n'a pas encore livré tous ses enseignements, c'est normal qu'on agisse sur ça, mais il y a beaucoup d'autres leviers sur lesquels on peut agir. Et justement, avec mes collègues, ce qui nous a intéressé, c'est de pas regarder les pays qui étaient tout en haut du classement, c'est de regarder les pays qui avaient progressé.
Mais il y en a plus beaucoup, des pays qui progressent.
Alors, dans la variété, dans les résultats 2025 qui viennent de tomber, qu'on n'a pas examiné absolument en détail.
Le Qatar, enfin, c'est pas.
Voilà. Mais il y a une baisse générale. Cela dit, la Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre précisément, a engagé un plan significatif, motivant, qui a donné des résultats. Et on peut, en remontant un peu plus loin, le Portugal a connu d'abord une première phase de 95 à 2003, et puis ensuite une décennie jusqu'à 2015. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la réforme pour différents facteurs a été abandonnée, les résultats ont baissé au Portugal. Et donc on a désormais, en matière d'efforts pédagogiques en tant que tel, un certain nombre d'enseignements sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas.
Alors justement, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a cité également le Royaume-Uni. Il explique qu'il faut fixer des objectifs pédagogiques, les partager avec les enseignants d'abord, avec les parents également. Et ça marche.
Alors, ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup chez Verlioz, c'est l'idée que le projet d'établissement ne soit plus une coquille vide, et c'est quand même, c'est mon expérience d'ancienne enseignante, mais c'est quand même souvent le cas, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'obligatoire, qu'on va faire assez vite, et puis on va contenter comme ça la hiérarchie, alors que le projet d'établissement pourrait être un levier d'investissement des enseignants qui leur donne non seulement beaucoup plus envie de croire en ce qu'ils font, d'aller dans le même sens, mais aussi beaucoup plus d'occasions de travailler en collectif. Là-dessus, les enseignants ont besoin d'être accompagnés, d'être rémunérés, ça, il y a un consensus là-dessus. On le sait, la formation continue des enseignants a une marge de progression qui est énorme.
C'est quasiment dans tous les programmes des candidats à la présidentielle, il se passe quelque chose là-dessus, il y a une prise de conscience.
Non, on l'espère.
Espérons-le. J'ai plus entendu parler de rémunération des enseignants, et c'est un sujet important parce qu'il y a des problèmes d'attractivité, et surtout en milieu de carrière, pas tellement en début de carrière, les enseignants français sont moins payés que les autres. En revanche, j'aimerais bien les entendre s'engager davantage sur le développement professionnel, la formation continue des enseignants. En France, elle n'est pas prévue particulièrement au secondaire. Il n'y a rien d'explicite.
Il y a des enseignants qui n'ont jamais, qui ne reçoivent jamais de formation continue.
Ça n'est rien de... Donc, par goût, la plupart d'entre eux trouvent les moyens du bord pour se cultiver, mais il n'y a pas de politique complètement explicite de formation des enseignants du secondaire. Dans le primaire, sont prévues 18 heures par an, de formation continue, ce qui n'est pas beaucoup et ce qui est plus ou moins fait. Si on prend tout en haut du classement, à Singapour, ils prévoient une centaine d'heures, et en ayant regardé à la fois ce qui était réaliste et ce qui avait marché dans des pays, nous, on a fixé un objectif à 80 heures pour tous les enseignants de formation continue. Sinon, on ne peut pas avoir des méthodes pédagogiques vraiment bien dominées.
Voilà, mobiliser les enseignants, mobiliser les parents, avoir un projet précis, ça fait partie donc de ces solutions que vous proposez chacun. Merci à tous les deux d'être venus débattre. À présent, on va entendre le meilleur de nos invités, de nos humoristes, de nos auditeurs.